Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Et je rappelle que le gouvernement s'est dit favorable à ce que tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans constitue désormais automatiquement un crime sans qu'il soit possible d'interroger le consentement de la victime. Charlotte, qui est étudiante et qui habite Cannes, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, donc, comme je vous le disais, moi, la question qui m'a soulevée, c'est pourquoi ça n'était pas déjà avant. On vit dans une société où les réseaux sociaux et Internet sont omniprésents. Donc, la sexualité l'est aussi et elle est accessible à tout le monde. Et malheureusement, elle est accessible aussi aux plus jeunes qui ont accès à des sites non sécurisés, mais aussi via des films ou des séries ou les scènes intimes. Elles sont de moins en moins implicites, en fait. Elles sont de plus en plus montrées et je pense donc que c'est une bonne chose que cet acte il soit considéré comme un crime, parce que les jeunes en dessous de 15 ans, de mon point de vue, et étant animatrice, ayant été confrontée à des... je me suis occupée de jeunes de cet âge-là, ils sont encore, pour moi, en construction. Ils sont pas encore à un âge où on peut comprendre tout. Et ils sont encore naïfs et inconscients, et ça permet aux majeurs, aux prédateurs, comme on pourrait les appeler, de les manipuler plus facilement, ces jeunes adolescents, et sans que cet enfant, même, il puisse s'en rendre compte. Et que ce soit d'un point de vue d'un petit garçon ou d'une petite fille, enfin d'un jeune adolescent ou d'une jeune adolescente.
Non, mais vous avez parfaitement raison, Charlotte. Il faut protéger évidemment ces jeunes personnes, parce que lorsqu'on a un certain âge, ben effectivement, ça peut être plus facile parfois de manipuler un jeune adolescent, une jeune adolescente, parce qu'on a un peu avoir du charme, parce qu'on peut effectivement avoir un certain charisme, de l'autorité, de l'expérience, que sais-je. Et effectivement, faut protéger face à ce type de personnes, les mineurs de moins de 15 ans, et cette loi va dans le bon sens. Vous avez dit parfaitement les choses, Charlotte. Mais par exemple, vous êtes étudiante, vous, quand vous avez eu 12, 13, 14, 15 ans, vous avez souvenir parfois d'avoir eu, dans votre parcours personnel, pourquoi pas, des personnes qui se sont approchées de vous et qui imaginaient une relation amoureuse avec vous ?
À 12, 13 ans, moi déjà, j'ai 23 ans, donc il y a eu une évolution technologique, en fait. Ce que je disais, c'est que nous, on n'avait pas obligatoirement ces réseaux sociaux, donc il y avait moins une approche, que ce soit physique ou via Internet, qui était aussi présente qu'actuellement. Donc, je me souviens pas, peut-être, mais j'en ai pas le souvenir. Peut-être, oui, il est un peu plus grand quand j'étais au collège, ceux de 3e ou même ceux de 2e, mais pas autant que maintenant.
Vous pensez que c'est la révolution technologique, mais les outils technologiques qui favorisent, parce que pour tout vous dire, moi j'ai pas ce sentiment. Hein. J'ai ce sentiment que des hommes de 35 ou 40 ans qui regardent des jeunes adolescentes, ça n'a pas existé avec Twitter et avec Facebook simplement.
Ah non, ça c'est sûr, ça existe depuis toujours, mais je pense qu'il y a une accrue. Je trouve qu'il y a une évolution de ça, et comme je le disais aussi, avec cette évolution des séries ou des films où les scènes intimes, elles sont certaines fois, elles sont exposées explicitement. On l'a vu avec des films qui sont sortis ces dernières années où l'acte en lui-même, il est montré. Et je pense que ça, du point de vue du jeune adolescent, ça doit les perturber, je pense. Parce que je pense qu'il n'y a personne derrière. Je sais pas s'il y a des gens, mais il faudrait que les parents ou des gens autour expliquent que c'est pas la réalité. Et je pense que c'est ça qui laisse aux prédateurs une opportunité de les manipuler plus facilement. Mais c'est sûr que ça existe depuis toujours, ce problème.
Merci Charlotte, on va marquer peut-être une première pause et puis Charles sera là, qui habite Lyon, et effectivement c'est un sujet qui vous fait réagir. C'est un avis de l'exécutif, je le rappelle, qui intervient au moment où le Parlement débat de plusieurs propositions de loi qui vont en ce sens. C'est même un tournant de la société sur ces questions qui nous conduit à changer le droit. C'est en tout cas ce qu'a dit hier Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux.
Les auditeurs ont la parole. Pascal Praud sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est une déclaration qui vous fait réagir depuis le début de l'émission. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, était l'invité hier soir de nos confrères de France 2.
Nous allons toucher au seuil d'âge. Un acte de pénétration sexuelle accompli par un adulte sur un mineur de moins de 15 ans sera un viol.
Ça veut dire qu'il n'est plus question de parler de consentement avant 15 ans.
Absolument.
Et le ministre a prévenu, il y a tout de même des situations particulières.
Le jeune homme de 17 ans et demi qui a une relation avec une jeune fille de 14 ans et demi ne peut pas devenir un criminel quand il a 18 ans et un jour. Donc il y aura des exceptions. Et deuxième élément, il faudra bien sûr que l'on puisse démontrer que l'auteur connaissait l'âge de la victime.
Y a-t-il enfin une prise de conscience sur ce sujet? La société a-t-elle évolué? Eh bien, c'est une grande avancée, écrit Denis sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Le gouvernement agit, mais le chemin sera long. Pense Axel, il n'y a pas de consentement avant 15 ans, écrit Carole. Il est grand temps que notre société évolue. Et bravo, monsieur Dupond-Moretti, pour vos déclarations, conclut Daniel.
On est en train de fissurer cette espèce de chape de plomb, notamment idéologique, qui interdisait à la parole des victimes de se libérer, a également dit Éric Dupond-Moretti hier. Nous sommes avec Charles, qui habite Lyon et qui est juriste. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Oui, vous voulez que je vous donne mon sentiment sur cette question?
Exactement, votre sentiment sur cette affaire.
Oui. Oui, moi, je fais complètement confiance à Maître Dupond-Moretti, puisque c'est quand même un grand spécialiste du procès aux assises, pour établir, si vous voulez, le bon niveau de sanctions. Sur l'âge lui-même, moi, j'ai qu'une seule pensée, c'est pour les victimes. En fait, les auteurs, on va essayer de mettre de côté leur cas, mais pour les victimes, il faut vraiment qu'ils se reconstruisent. Donc, si on clarifie la sanction avec un âge limite, je trouve ça très positif. Mais il y a une chose qui me fait peur, vraiment une chose, c'est que ce soit un texte complexe. Quand j'entends parler d'exception, je sens que ça va se complexifier.
Ah, il y a une exception pour le jeune. L'exemple qu'il cite est excellent. C'est pas la même chose lorsqu'on a 17 ans et demi d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un qui a 14 ans ou 15 ans que lorsqu'on a 45 ans.
Oui, mais moi je souhaite que l'auteur, quel que soit son âge, et se renseigne sur l'âge de la victime. Il n'y a pas à... Alors, je sais bien, c'est pas un questionnaire.
C'est une question de bon sens qu'on dit là. Vous savez bien ce que c'est. Ouais. À 14-15 ans, c'est pas assez... Vous avez une relation avec quelqu'un de 17 ans et demi, c'est pas la même chose. Convenez-en.
C'est à l'auteur d'être plus responsable que la victime, et c'est sur lui que doit peser la responsabilité.
Sauf qu'à 17 ans et demi, on n'a pas la même maturité intellectuelle, sans doute, que on sait.
Ben oui,
vous voyez, c'est pas du tout la même chose. En fait, la vérité, c'est quand on a 45 ans, on n'a pas regardé une fille de 15 ans. C'est ça la vérité. Faut le dire comme ça. Et même quand on en a 30 ou 35 et de ça. C'est-à-dire qu'on ne doit pas toucher à l'enfance. C'est simple. Un homme digne de ce nom ne doit pas toucher à l'enfance. Voilà.
C'est ça qui est simple et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est très bien dans cette initiative. Voilà. Je me méfie simplement, je suis juriste, je me méfie des textes complexes. Voilà. Et je me mets à la place des magistrats. C'est quand même difficile de trancher les différents cas avec les textes en vigueur aujourd'hui. Et il ne faudrait pas que ça le soit encore plus demain. Moi, je suis pour la clarification. Ça, c'est très bien, très bon côté. Et je fais confiance à Maître Dupont, enfin, à Éric Dupond-Moretti, ministre. Mais j'aimerais bien qu'on fasse pas trop d'exceptions, de sorte qu'il y ait une vraie responsabilité qui porte sur tout auteur. Tout auteur. Je dis pas qu'il faut pas d'exceptions, mais je dis qu'on écrive des exceptions dans la loi avec une main tremblante. Vraiment.
Bah merci Charles de ce témoignage. François est là également, qui habite Orbeil dans le Calvados. J'ai l'impression qu'il y a unanimité sur ce sujet. Bonjour François.
Oui, bonjour. Ben oui, ça pourrait pas être autrement. Je vois pas comment on pourrait ne pas être d'accord avec les propositions faites pour ce changement.
Il y a sûrement des gens pour tout dire qui ne sont pas d'accord, mais par définition, ils le diraient pas à l'antenne. Mais il y a sûrement, par définition, des gens qui, appelons-les des prédateurs, qui ont un certain âge et qui s'intéressent aux jeunes filles. Voilà.
Parce oui, que l'humanité est ainsi faite.
Et quand je dis jeunes filles, en fait, aux très jeunes filles, puisqu'on est avant 15 ans.
Voilà, on parle des adolescents de moins de 15 ans et j'estime que de toute façon c'est une loi qui est là mais qui aurait dû être là depuis longtemps. Et il a fallu quand même une vague de témoignages pour que, enfin, des politiques se posent la question. Et cette question, elle existait dans notre société depuis bien longtemps déjà. Et comme disait votre auditeur précédent, avocat, je crois, juriste, il va falloir faire attention aux exceptions. Parce que aujourd'hui, on est dans une société où quand on a 17 ans et demi ou 18 ans, on a une maturité d'esprit qui nous permet de penser déjà autrement qu'une jeune fille ou un jeune garçon de 13, 14, 15 ans. Parce qu'on parle de 15 ans, mais souvent, il y a des viols qui arrivent sur des enfants plus jeunes. Et dans ces cas-là, l'acte lui-même est répréhensible et c'est un viol. Et le viol doit être puni. Et à partir du moment où il est puni, il faudra pas oublier non plus de voir ce que donne la récidive, parce que c'est une chose qui est souvent oubliée et on s'aperçoit que beaucoup de crimes sexuels sont reproduits par des récidives. Et ça, c'est une chose qu'il faut à tout prix aussi mettre dans la loi pour qu'il y ait une vraie punition. Et s'il faut aller jusqu'à la prison à vie, il y a des États ou des pays où ça se fait, eh bien, il faudra aller jusque-là parce que les prédateurs doivent être retirés de la société. Et nous avons 24 petits-enfants et je peux vous assurer que si quelqu'un touche à un de mes 24 petits-enfants, eh bien, la loi a intérêt à agir bien rapidement parce que moi, je ferai certainement une loi qui sera tellement plus expéditive parce que je ne peux pas l'admettre.
Bon, François.
Mais non, mais je peux pas admettre.
Non, mais faisons attention à. Forcément.
Non, mais j'entends
le grand-père que vous êtes et j'entends le grand-père que vous êtes, mais quel âge ont vos 24 de quel âge à quel âge?
Ah ben nous ça va de 28 ans à je crois le dernier, ça doit être dans les un an et demi parce que j'ai pas tous parce que j'ai aussi des arrières.
Petits enfants et vous aviez combien d'enfants?
7 et puis il y a 13 arrières. Donc,
donc 7 enfants, 24 petits-enfants et 13 arrières.
Ouais.
Vous êtes bien content. Vous avez 64 ans et vous avez déjà 13 arrières petits-enfants à 64 ans.
Oui, parce que je vais être honnête avec vous. Nous avons recréé une famille et cette famille fait que les petits enfants de mon épouse m'appellent papy et me considèrent comme leur papy et moi je me vois comme leur papy. C'est-à-dire que, comme vous disiez, quand on a un certain âge, les enfants, même s'ils sont d'à côté, il faut les voir comme des enfants.
Bien sûr,
c'est ça que je veux dire. Hein, et le fait que la loi change que maintenant me pose la question de me dire heureusement que Camille Kouchner, que je ne connais pas, ait écrit ce livre et qu'il y ait eu cette médiatisation autour de ce livre. Parce que ça a dégagé les victimes de donner leur avis, de donner leur expérience malheureuse, parce que les victimes devaient avant tout prouver avant qu'elles avaient été victimes. Et avant d'être considérées comme victimes, on les regardait plutôt comme provocateurs ou provocatrices. Et cette loi, pour moi, est très importante dans ce sens-là.
Ben merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Et alors, bon, j'allais dire embrasser la famille, mais respecter les gestes barrières, parce qu'autrement, si vous embrassez toute la famille, vous y êtes jusqu'à demain. Alors, nous avions un premier Charles tout à l'heure, et nous n'avons que des noms de rois, hein, pour le moment, Charles, François. Et nous avons un deuxième Charles, à moins qu'on ne laisse passer une page de publicité. J'entends la musique de Greg Caradoni.
Bonjour à tous, absolument.
Greg, c'est pas un prénom de roi, de pape.
De
je pense
gueux.
Qu'il n'y a pas de gueux. Il n'y a pas eu de Grégoire. Il y a eu des papes Grégoire, mais il n'y a pas eu.
Restons sur ça alors, restons sur un prénom de pape.
Bien sûr. Donc on parlera avec Charles qui est enseignant. Ce sera notre deuxième Charles de la journée. C'est une émission très chic que nous faisons. 13h16, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Charles, je disais qu'il y avait un consensus sur la loi imaginée par le gouvernement qui s'est dit, je le répète, favorable à ce que tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans constitue désormais automatiquement un crime. Et vous avez peut-être écouté le garde des Sceaux hier soir qui était sur France 2. Charles, votre avis?
Oui.
Bonjour. Bonjour. Ben, écoutez, mon avis, c'est que je pense que le problème, alors évidemment que c'est une bonne chose, hein, forcément, évidemment que c'est bien. Par contre, je trouve que le problème est beaucoup plus complexe que ce côté, cet aspect catégorique de la loi, parce que c'est vrai qu'on parle du consentement. Ce consentement, à un moment donné, faudra le mettre sur la table, parce que bon, il y a des faits de société comme ça qui sont pas, qui datent pas de maintenant, mais qui vous voyez, par exemple, il y a des, je dis pas que c'est forcément bien, enfin, je veux pas émettre un jugement moral là-dessus, mais il y a quand même beaucoup de mères adolescentes, par exemple. Bon, ça existe, c'est pas quelque chose, c'est pas un phénomène qu'on peut ignorer. J'imagine que, parmi ces mères adolescentes, il y a des adolescentes qui ont été et qui sont, consentantes et qui ont peut-être eu une relation, effectivement, avec
quelqu'un. C'est pour ça que l'âge est de 15 ans, là. L'âge est 15 ans. Donc, des mères de moins de 15 ans, il doit pas en avoir beaucoup quand même.
Je sais
parce qu'adolescence, enfin, l'adolescence, ça va sans doute jusqu'à 18-19 ans, je ne sais pas précisément quel âge, donc, mais ce n'est pas la même chose pour le législateur, en tout cas. Au-delà de 15 ans, on considère que ce n'est pas la même chose qu'en dessous.
Tout à fait. Alors, et après, moi, ça m'inspire quand même pas mal de choses. Vous voyez, par exemple, j'estime que c'est quelque chose, c'est des décisions qui viennent tardivement. Et je trouve que ça, par contre, ça me gêne. Ça me gêne beaucoup par rapport aux victimes d'avant. Enfin, c'est des personnes qui ont eu ce genre de problème. Parce que, on gouverne en fonction des phénomènes de mode médiatique. C'est-à-dire que si le sujet n'avait pas été mis sur la table médiatiquement, il n'y aurait pas eu cette décision. Il n'y aurait jamais eu cette loi, ou en tout les cas ce projet de loi. Et j'estime que ça, par contre, c'est pas l'idée que je me fais de quelqu'un qui gouverne, parce que comme on le dit très souvent, gouverner c'est prévoir et c'est aussi assumer certains sujets. Et j'ai l'impression que ce ministre là ben comme beaucoup d'ailleurs, ben a une indignation à géométrie variable, c'est-à-dire qu'il s'empare, il semble s'emparer avec courage de certains sujets, et puis d'autres sujets qui sont aussi très graves, en fait, et ben j'ai l'impression que là, par contre, il les prend pas du tout à bras le corps et il les assume pas vraiment. Et ça me gêne. Ça me gêne parce que.
Mais Charles, c'est l'histoire des sociétés. C'est-à-dire qu'en 36, les gens défilent dans la rue avant que la loi change. Et puis en 1789, les gens défilent autour de la Bastille et ça va changer. Donc les pressions, ce que vous appelez médiatiques, mais c'est tout simplement les sociétés qui réclament des changements. C'est l'histoire de toutes les sociétés.
Mais
elles sont dans la rue, alors parfois elles sont dans la rue, elles sont à la télévision, etc. Mais ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que le pouvoir change. Parce qu'il y a une demande de la société.
Je suis bien d'accord, mais c'est loin d'être systématique, parce qu'il y a des sujets qui sont mis sur la table, il y a des sujets qui suscitent l'indignation.
Bah regardez par exemple les grandes lois sociétales en France, l'avortement, c'est parce que deux ou trois ans avant, il y avait eu l'appel, je crois, des 243 salopes
tout
de mémoire.
Fait, tout
donc
à
c'est
fait,
toujours
bien
pareil.
Sûr.
Et bien, la bien loi, sûr. En fait, la loi, dans 9 cas sur 10, elle vient simplement, rectifier ou prendre une position que la société réclamait déjà depuis quelques années.
Bien sûr,
elle est toujours en retard, la loi.
J'ai envie de vous dire que c'est un signe de bonne santé démocratique, mais c'est loin de d'être aussi. J'ai l'impression que c'est pas aussi systématique. Vous voyez, quand Monsieur Moretti parle du sentiment d'insécurité en France, là, j'estime qu'il est à côté de la plaque. Et là, il légifère pas. Lorsque y a un enseignant sur qui pèsent des menaces de la part de certains extrémistes, et ben là, j'ai l'impression qu'il affronte pas ce sujet. Bah,
sauf que la loi de Darmanin, c'est ça. La loi du séparatisme, ça. Elle vient élever le niveau de condamnation et d'infraction en fonction de ce qui se passe sur le terrain.
Écoutez,
c'est-à-dire qu'on protège en l'occurrence les fonctionnaires désormais, parce que avant on n'avait pas à les protéger puisqu'ils n'étaient pas attaqués. Mais
écoutez,
bon, peu importe, on referme, pas de la même manière, on referme cette parenthèse.
Je souhaite que vous ayez raison, Pascal, il n'y a aucun problème, je souhaite vraiment que vous ayez raison. Mais voilà, et puis je voulais juste rajouter un dernier élément, parce que je pense que le sujet est très complexe. On parlait des réseaux sociaux, et la jeune fille, là, du début, a parlé de ça.
Charlotte.
Et exactement, Charlotte, oui, tout à fait. Et je trouve aussi que actuellement, enfin, ces dernières années, les jeunes se sexualisent beaucoup sur les réseaux sociaux. Très jeunes, des réseaux sociaux comme TikTok, par exemple, voyez. Et là, par contre, je pense que il y a la responsabilité des parents qui est engagée. Et là, par contre, voilà, moi, je trouve que ça pose problème, ça aussi. Et moi, je pense que ça fait partie du même tout, quoi. C'est-à-dire que y a quelque chose aussi qui repose quand même sur les parents, et ça, il faut pas en faire abstraction, je trouve.
Voilà. Ben merci. Alors, ce qui est important de préciser, c'est qu'aujourd'hui, une condamnation pour viol ou agression sexuelle suppose que les juges démontrent l'absence de consentement à travers les notions de violence, menace, contrainte ou surprise. Et c'est pour ça que c'est un tournant, hein, évidemment, puisque ça, il n'y aura plus à aller dans cette démonstration. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup.
Merci.
Et
au revoir.
13h24. Nous allons peut-être changer de sujet, à moins que nous soyons avec Paul, qui est étudiant. Bonjour, Paul.
Oui, bonjour.
Vous avez 22 ans.
Tout à fait.
Bon, et vous vouliez témoigner parce que vous avez une relation amoureuse avec une jeune fille.
Tout à fait.
Et cette jeune fille a...
Plusieurs mois maintenant.
Pardon ?
Depuis plusieurs mois maintenant, oui, tout à fait.
Et cette jeune fille est particulièrement jeune, elle a 14 ans.
Oui, bientôt 15, oui.
Oui, donc effectivement, alors c'est vrai que vous êtes un jeune adulte, bien évidemment.
Oui.
Mais cette relation pourrait tomber sous le coup de la loi.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que moi, j'entends parler de sexualisation, de tout ça, mais on oublie de parler de l'amour, le vrai. Moi, ma relation aujourd'hui avec ma copine, c'est quelque chose de réel, un amour platonique. Bien sûr, bien entendu, sans consentement, sans quoi que ce soit, il n'y aura rien, bien entendu. Et c'est vrai que cet amour-là, où il y a le respect l'un à l'autre, peut être réel entre une personne majeure et mineure, ce qui est mon cas avec ma partenaire. Et je pense pas que ce soit, tant qu'il y a du respect, je pense qu'il est important de mettre de ne pas mettre des barrières à l'amour qui peut exister entre une personne majeure et mineure.
Alors, bon, comment dire, par tempérament, je me méfie toujours quand on commence à parler d'amour. Vous savez, je connais des parents qui disent à leurs enfants, c'est parce que je t'aime que je fais ça, etc. C'est toujours au nom de l'amour, et parfois, au nom de l'amour, on a fait des choses... Moi, je cite souvent, c'est Comte Sponville qui dit ça dans un de ses bouquins, quand on dit « j'aime le poulet », c'est pas forcément bon pour le poulet. Voilà,
oui,
et j'adore cette phrase, qui n'est pas de moi, d'André Comte Sponville, mais je la trouve extraordinaire, pour tout vous dire.
Oui,
mais là, vous avez parlé d'amour platonique avec cette jeune femme.
Voilà, c'est ça.
Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, platonique. Donc, il n'y a pas de relation sexuelle, en tout cas.
Voilà. Quand je dis platonique, il y a quand même, malgré tout, des échanges de baisers et des quelques câlins. Voilà, ça reste quand même une relation amoureuse. Aujourd'hui, je me sens bien avec cette personne-là. Et j'ai pas envie qu'on me juge parce que moi, à 22 ans, je suis avec une personne mineure de 14 ou 17, ou voilà. Tant qu'il y a le respect derrière et que voilà, je prends soin d'elle, je suis bien avec elle et j'ai pas envie que je me sente jugé sous prétexte que la sexualisation des réseaux, etc. Il y a quand même des personnes sincères, il faut pas les oublier.
Paul, ça fait, j'imagine que cette jeune femme, c'est pas la première amoureuse que vous avez.
C'est la deuxième vraie amoureuse que j'ai.
Et combien de petites amies vous avez eues depuis que votre vie amoureuse a commencé ?
En vraie relation, c'est la deuxième, ouais.
Mais qu'est-ce que c'est quoi une fausse relation ? C'est ça que je comprends pas.
C'est une relation qui dure seulement quelques semaines, quoi.
Ouais, ça compte quand même. Une petite amie qui dure quelques semaines, surtout à cet âge-là, on sait que on peut parfois multiplier dans sa jeune période les relations. Tristan et Isolde, généralement, lorsqu'on se rencontre à 14-15 ans, on peut avoir des aventures, ça dure un mois, et puis après, une autre jeune femme arrive, une autre jeune fille arrive. Donc, cette jeune femme, vous dites, c'est la deuxième, mais il y en a eu d'autres quand même.
Oui, il y en a eu plusieurs, mais, mais c'était pas aussi passionnel que mon amour actuel. Avec cette jeune femme, avec cette jeune fille, avec qui ça se passe merveilleusement bien, et j'aimerais du coup qu'on arrête de juger hâtivement, en tout cas, ces relations qui peuvent...
Non, moi, je veux pas... D'abord, j'aime pas juger, j'aime bien essayer de comprendre. Mais par exemple, les parents de cette jeune femme vous connaissent ?
Oui, tout à fait. Tout à fait, je les ai rencontrés déjà.
Et ils savent la relation que vous nourrissez avec cette jeune adolescente.
Tout à fait, ils savent, ils m'ont rencontré. J'ai échangé avec eux, bien entendu, au sujet du respect, au sujet de faire attention, de ne pas, comme, comme, comme j'entendais parler tout à l'heure, de certaines personnes qui peuvent abuser de la confiance, puisque c'est vrai, quand on est jeune, on est plus vulnérable, et ça, je suis totalement d'accord avec ça, et c'est là le danger, hein, des relations entre mineurs et majeurs. Mais c'est vrai que tant qu'il y a cette bienveillance, je pense que l'amour est tout à fait possible, même si c'est vrai qu'on est plus vulnérable quand on est jeune, évidemment.
Donc votre amie, elle va avoir 15 ans dans quelques jours.
Début d'été prochain.
Début de l'été. Bon. Écoutez, ouais. C'est vraiment difficile la position que j'ai, parce que j'ai vraiment horreur d'être censeur ou juge, etc. Donc
je comprends.
Voilà, je vais essayer de comprendre. Et puis chaque cas est différent. Évidemment, vous avez 22 ans, vous êtes un jeune adulte. C'est pas, à mon sens, la même chose que quelqu'un qui aurait 45, 50 ans et qui serait amoureux d'une jeune femme de 15 ans. Chaque cas vraiment est différent, et c'est des sujets effectivement qui sont délicats. 13h29, la pub à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
À 13h31, le programme peut-être, Laurent Tessier.
Se dirige-t-on vers un duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen pour la présidentielle de 2022? Les deux tiers des Français jugent probable ce match selon un sondage IFOP. Aura-t-il lieu pour vous? Qui voyez-vous au second tour? 32-10. La présidente de la Commission européenne a fait un mea culpa ce matin.
Nous avons été trop lents à autoriser les vaccins, trop optimistes pour les produire en masse, et peut-être avons-nous été trop confiants dans la ponctualité des délais de livraison. Nous devons nous interroger sur le pourquoi et réfléchir à quelles leçons nous pouvons en tirer.
Nous avons été trop lents à autoriser les vaccins. Vous pourrez réagir à cette phrase au 32-10. Et on pense à notre ami Julien Courbet. Sur Twitter, il a annoncé la disparition de sa chienne Vega, 16 ans, avec une vidéo de son animal accompagnée de cette chanson. Un message très émouvant posté hier sur Twitter. Vega, je ne pensais pas que je pourrais aimer un chien à ce point et qu'un chien pourrait m'aimer autant. Quand on s'est vu au refuge pour la première fois, ce fut le vrai coup de foudre. Merci de nous avoir rendus si heureux. À bientôt. Je t'aime. L'amour entre un chien et son maître est réel. N'hésitez pas à nous appeler et témoigner au 3210. C'est un membre de la famille, écrit Fabrice. J'ai perdu mon chien il y a 2 ans, témoigne Franck sur la page Facebook. Celles et ceux qui n'ont jamais eu d'animal ne peuvent pas s'imaginer la peine, la douleur qui nous envahit. Karine a à la maison un labrador. Il a 9 ans et je peux vous dire qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde, il nous apporte tellement.
Et je crois que la musique qu'il a choisie, c'est la musique dans Love Actually, quand Liam Neeson a perdu sa femme et lui rend hommage dans l'église, je pense, hein, mais faudrait vérifier, demander à l'ami Julien. Alors le duel qu'on imagine entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est vrai que pour tout dire, on voit pas comment on pourrait échapper à ce duel. Est-ce une bonne chose ou pas? Ça, les uns et les autres vont nous le dire. Bonjour Jacques.
Bonjour Pascal, comment allez-vous?
Mais vous êtes dans le Jura, il y a de la neige dans le Jura?
Ah, il y a beaucoup neigé sur le haut, oui. Les gens peuvent venir faire du ski, les raquettes, boire un bon vin jaune et un bon morceau de côté, il n'y a pas de problème.
Parce qu'à Paris, il y a de la neige ce matin. C'était
oui, mais chez vous, c'est exceptionnel. Chez nous, c'est courant.
Bon, vous souhaitez ce match retour, comme on dit en football, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen?
Ah non, mais moi, je ne souhaite rien du tout. Déjà, il faudra que Emmanuel Macron soit au deuxième tour. Pour qu'il y ait un duel.
Pas faux. Et vous pensez que c'est pas possible? Ou pas, je n'en sais rien.
Vous savez, hein, le secret des urnes, hein, vous vous souvenez que Jospin se voyait déjà président de la République. Hein. Donc il faudra déjà qu'il soit au deuxième tour et qu'il fasse bien le premier tour. Mais autrement, oui, je vois clairement un duel se reformer comme ça. Peut-être. Selon le résultat du premier tour, comment d'ici là, parce qu'on est encore loin hein, de ce premier tour des présidentielles, il peut se passer encore beaucoup de choses, vous savez, dans la vie de tous les jours, etc. La vie va tellement vite maintenant.
Je suis d'accord avec vous, mais quel est votre sentiment? Parce que c'est ça qui m'intéresse.
Hein. Ah ben, mon sentiment, je reste convaincu qu'il y aura Marine Le Pen au deuxième tour, c'est certain. L'autre candidat, je suis pas sûr.
D'accord.
Bon, il y aura Emmanuel Macron. Et peut-être
et qui vous voyez si ce n'est pas Emmanuel Macron?
On peut voir émerger peut-être quelqu'un sur la droite. Hein,
oui, mais qui?
Type, comment il s'appelle? Bertrand.
Xavier Bertrand.
Un type comme Bertrand, qui est pas mal, hein, d'ailleurs, comme gars. Et Et puis bon, pourquoi pas l'alternance? On nous parle de l'alternance dans tout. On nous demande le pouvoir aux femmes dans tout. Bah, pourquoi pas le pouvoir suprême à une femme?
Et alors, pourquoi pas, effectivement. Mais alors à ce moment-là, quelle est la femme aujourd'hui qui vous paraît le mieux placée à droite comme à gauche? Parce que d'abord, il y a Marine Le Pen, vous l'avez dit, qui est...
Moi, j'aime bien Marine. Bon. Je ne m'en cache pas, je m'en suis jamais caché. Et je n'ai pas l'habitude de dire autre chose.
Donc vous votez pour elle?
Ah oui, dans tous les cas, je voterai pour elle. Ça, c'est certain.
Bon, ben merci Jacques. Merci de cette prospective.
Je pense qu'elle peut, elle peut remettre un peu d'ordre dans la maison France qui est un peu tournambolée. Hein.
Restez avec nous, Philippe, et vous pourrez intervenir si vous le souhaitez. Philippe, qui habite dans les Côtes d'Armor et qui nous a appelé via Facebook, Côtes d'Armor sous la neige. Peut-être non, il n'y a plus de neige à cette heure-là, j'imagine.
Oui, bonjour Pascal. Bonjour. Non, il n'y a pas de neige où je suis en bord de mer. Donc, il a neigé à l'intérieur, d'après ce que j'ai entendu. Mmh. Une dizaine de kilomètres de la côte, mais sur la côte où je suis, pas un gramme de neige. Bon. Il fait froid.
Il fait froid. Le match retour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Alors moi, je fais partie du tiers des Français qui pensent que le match sera différent, qu'il n'y aura pas de remake. Je crois, enfin c'est un pronostic, mais après tout, qui vaut ce qui vaut, hein, c'est-à-dire peu, que ni Emmanuel Macron, ni Marine Le Pen ne seront au deuxième tour.
Ah oui, ça c'est audacieux. Alors qui vous voyez?
Ah oui. Alors qui je vois? Je ne vois justement. C'est audacieux de dire ça, mais d'un autre côté, je ne suis pas audacieux dans le pronostic.
Bah oui, parce qu'aujourd'hui, elle est à 25 quand même dans les sondages. Oui. Emmanuel Macron est globalement dans la même fourchette, et les poursuivants sont loin.
Les poursuivants sont loin.
Donc
mais
ça veut dire un renversement de situation important, parce que si Marine Le Pen n'est pas là, ça veut dire que quelqu'un qui représente ses idées est passé devant elle.
Oui.
Donc c'est forcément plutôt du côté droit qu'on va chercher. Oui. Bon, Xavier Bertrand.
Non, je pense que comment ça, Xavier Bertrand est trop proche en fin de compte du macronisme.
D'accord, mais alors qui?
Peut-être Nicolas Dupont-Aignan qui progresse en ce moment dans les sondages.
Hey, il faut qu'il parte de loin, il est à 4, 5, 6 hein.
7 je crois en ce moment.
Bah, 7 si vous voulez, mais donc 7, oui, ça, oui, grosse cote hein. Grosse cote Nicolas Dupont-Aignan.
Ouais, et d'un autre côté, il faut quelqu'un qui puisse rassembler Marine Le Pen, elle est à 25% dans les sondages, mais pour être élue, il faut un peu plus de 50%.
Non, mais j'entends bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est le premier tour. Si elle n'est pas là, quelqu'un d'autre lui est passé dedans. Donc, ça veut dire que Nicolas Dupont-Aignan est arrivé à 20 ou 25, que Marine Le Pen, elle est redescendue à combien à ce moment-là, Philippe?
Ah, ben, elle est redescendue peut-être à en dessous, mais peut-être que en fin de compte il y aura un accord. Vous savez, on est dans une situation tellement
accord du Pontenir Marine Le Pen, vous y croyez?
Voilà.
C'est pas sûr.
Ça sera très ouais. difficile, mais si les sondages étaient vraiment en faveur de Nicolas Dupont-Aignan, mais je dis Nicolas Dupont-Aignan, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre.
Mais hein, ça peut pas être quelqu'un d'autre, c'est ça. Ouais. Tu peux pas sortir d'un chapeau. Pour
on
un
a
candidat.
Sorti Emmanuel Macron du chapeau, parce que je vous rappelle qu'à la même époque. En 2016, oui, en 2016, donc un an, plus d'un an avant l'élection, 18 mois avant l'élection, où en était Emmanuel Macron?
Cet argument s'entend.
Et voilà, c'est ça la question.
Cet argument peut s'entendre. Je me range à cet argument qui est factuellement vrai.
Pourquoi j'ai cette discussion? Parce que à l'époque, j'avais eu la même discussion avec des amis et tout le monde m'avait dit ben non, François Hollande va se représenter parce qu'il faut qu'il défende son bilan. C'est inconcevable qu'il ne se représente pas et c'était inconcevable. Et finalement, il a décidé lui-même de ne pas se représenter. Si Emmanuel Macron déjà ne se représente pas, s'il sentait que les sondages étaient vraiment mauvais, même s'il est aujourd'hui à 25%, mais enfin quand même, il y a un bilan. De la crise sanitaire qui n'est pas des meilleurs.
Eh bien, voilà. Merci. Merci Philippe de cette analyse. On va marquer une nouvelle pause. Alors on peut parler de tous les sujets que vous souhaitez aujourd'hui, notamment effectivement de l'amour entre un chien et son maître. Et on parlait de message de Julien Courbet tout à l'heure. Vous pouvez également revenir sur ce qu'a dit la présidente de la Commission européenne et notamment sur les vaccins. Et nous pourrons également parler de cuisine. Est-ce que vous êtes passionné de cuisine? Vous faites la cuisine, Grégory?
Bien sûr.
Ah bon? Alors vous avez fait quoi hier soir, par exemple?
Bah alors je rentre un peu trop tard pour cuisiner le soir. Non, mais attendez.
Non, mais alors, et quand votre femme elle rentre tard, au moins personne mange à ce moment-là. Vous
tout,
êtes vraiment gonflé. Vous êtes vraiment. Je pensais que vous étiez un homme moderne, mais quel match. Vous rendez compte de votre réponse. J'attire les féministes à ce que vous venez de dire à l'instant. Non, quand je rentre un peu tard, je peux pas faire la cuisine.
Non, pas
et
du
votre
tout.
Femme.
Vous n'avez pas laissé finir, Pascal. J'ai dit, je suis rentré un peu tard hier et j'ai eu la chance en rentrant de trouver un dîner prêt. Voilà, ma femme m'a en quelque sorte préparé un petit dîner pour me dire « Ah, mon amour, tu es rentré tard, je te prépare un petit dîner. » Voilà.
Quand même, enfin, ça ne se
mais
passe
pas du
plus
tout,
comme
mais
ça
c'est...
aujourd'hui.
Mais attendez, mais vous plaisantez. Je lui
très
prépare,
déçu.
Je prépare moi aussi des dîners, des déjeuners.
Alors, qu'est-ce que vous avez préparé? Quel est le dernier dîner que vous avez préparé? À la Saint-Glinglin.
Oh, quel est le dernier dîner que vous avez préparé, vous?
Hier soir.
Et c'était quoi?
Mais j'ai vu tout seul, moi.
Ah oui, donc vous êtes obligé.
Mais j'ai vu tout seul hier soir. Voilà, j'ai pris un chiparmentier.
Mais je prépare régulièrement des soupes, des petites tartes, des petits woks de légumes avec un peu de viande.
Mais au micro-ondes, et puis voilà, du lundi au jeudi, c'est micro-ondes.
C'est pour ça que vous êtes seul?
C'est pourquoi je suis seul. Ah non, ce soir, je serai avec mes filles, je tiens à le dire. Ah. 13h41, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal.
Quelle déception quand même, Laurent Tessier. Nous pensions avoir avec nous un homme du 21e siècle et finalement, nous en avons un du 19e.
Il y aura un avant et un après.
Exactement. Il rentre chez lui, sa femme lui a préparé son repas, il met les pieds sous la table et si ça se trouve, il ne débarrasse même pas. Voilà, voilà, Greg Caranani.
Bah non, je ne débarrasse pas, bien sûr.
Voilà.
Ah, nous avons une confirmation d'une information.
Laurent Tessier.
13h43, il est grand temps de se mettre. Et avant le retour de Top Chef ce soir sur M6, 12e saison. Êtes-vous passionné de cuisine? Passez-vous de plus en plus de temps au fourneau? Dites-nous quel est votre plat le plus réussi. Eh bien, Sophie cuisine beaucoup plus depuis le premier confinement. On prend le temps chaque semaine de faire des bons petits plats maison. Justement, Gilles est en train de préparer des lasagnes bolognaises magnifiques. Le week-end, c'est pâtisserie, nous dit Aurélie. Moelleau au chocolat, c'est tellement plaisant de préparer tout ça en famille. Bœuf bourguignon pour Marie-François dimanche dernier. Et ne parlez pas cuisine, Régis, la seule chose que j'arrive à faire, c'est de cuire un steak haché, de faire des pâtes. Ça ne va pas très loin.
Bienvenue au club.
Vous reconnaissez dans ce témoignage, j'ai l'impression.
Exactement. Marie-Agnès est là et on va terminer peut-être sur le duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Bonjour Marie-Agnès, quel est votre sentiment?
Bonjour, je vous signale que moi je cuisine, j'ai travaillé, j'ai toujours cuisiné, j'ai toujours fait ça.
Et vous habitez où dans Paris? Parce que ça peut m'intéresser peut-être Marie-Agnès.
Dans le Paris, dans le 9e. Mais vous voyez, dimanche dernier, j'ai fait des aiguillettes de canard à l'orange à mes enfants.
Ah, vous n'avez pas envie d'en faire pour moi?
Oh bah si vous voulez, hein, moi je veux bien. Hein. Vous savez, j'ai un club de cuisine avec des copines depuis plus de 30 ans. On fait de la cuisine tous les mois. Mais là, depuis deux ans, on peut pas le faire. Depuis un an, on peut pas le faire.
Ouais.
Mais en échange, non. C'est là, vous voyez, avant que je ne vous appelle, j'étais en train de trier des recettes pour pouvoir faire la cuisine la semaine prochaine avec mes enfants, mes petits-enfants. Et samedi, dimanche prochain, ce sera une carbonade flamande.
Je vous avoue que je traverse une période assez difficile, chère Marie-Agnès.
Bon,
dites-nous tout sur ce qui se passera en 2022. Alors, est-ce que vous avez regardé la boule de cristal?
La boule de cristal, bon, pour le moment, je suis de droite, je le dis tout de suite. J'ai toujours voté à droite.
Personne n'est parfait.
Personne n'est parfait. Depuis que j'ai voté la première fois en 69, pour De Gaulle. Donc, moi, je vous revois, à moins que le locataire de l'Élysée ne se représente pas. Mais comme il y a un esprit de challenge, je ne sais pas, j'avoue que je suis un peu... Mais je pense qu'on revient vers un duel et qu'on peut avoir une surprise. On risque d'avoir un duel Marine Le Pen et à nouveau Macron. Il ne faut pas oublier qu'aux dernières élections, il y a quand même eu 10 millions d'abstentions. C'est quand même le président de la Ve République qui a été le plus mal élu. Il y avait 10 millions d'abstentions. Dans mon entourage, moi je le cache pas, je ne l'aimais pas. J'avais regardé son programme, j'ai voté pour la première fois de ma vie, j'ai voté Marine. Et mes enfants ont voté blanc. Et là, dans mon entourage, je connais des gens qui, viscéralement, étaient absolument anti-extrême droite, et qui n'avaient jamais voté, et qui envisagent de le faire. Donc, et vous, dans, je suis beaucoup en Picardie, beaucoup dans le nord de la France. Quand vous voyez que dans des villages comme celui où j'ai une maison, eh bien, dans les 10 villages aux alentours, qui sont des villages de 350 personnes, hein, Marine Le Pen était complètement en tête aux deux élections. Donc, si vous voulez, les gens, la mentalité des gens, quand vous discutez avec certains, en disant, écoutez, on a tout essayé, ils se valent tous, alors pourquoi pas essayer cela ? À moins qu'à droite, on ait quelqu'un qui émerge. Moi, j'ai un petit faible pour Bertrand. Il y a aussi le maire de Cannes, dont on parle beaucoup.
David Lisnard.
Retailleau est un mec bien, mais ils sont pas funky, hein, moi qui sortent des programmes extraordinaires. Wauquiez, il a fait un peu... Enfin, Wauquiez, moi j'aime bien Wauquiez aussi. Mais voilà, donc je pense qu'on va vers ce style de choses. Et tout dépendra de l'abstention. Mais les gens, si vous voulez, la mentalité, quand on discute un peu avec les gens, on dit, finalement, depuis 5 ans, depuis le départ de De Gaulle, on a tout essayé, pourquoi pas eux ? Puisque oui, leurs villes ne sont pas trop mal gérées.
Il y a eu quelques succès quand même depuis le départ du général De Gaulle. Pompidou était un président de la République dont le...
J'aimais beaucoup Pompidou.
Oui, non.
Pompidou, j'avoue, j'ai pleuré comme une Madeleine.
Oui.
Comme pour De Gaulle, je suis arrivée en noir.
Le travail a été salué. Pareil Valéry Giscard d'Estaing, pareil François Mitterrand.
Ah non, me parlez pas de Giscard. Alors oui, là, celui-là, il a tout sapé. Alors là.
D'accord, je vous en parle quand même. Mais certains présidents ont laissé quand même une trace de leur passage. Alors François est là et François veut rebondir sur Xavier Bertrand parce que ça est peut-être son chouchou. Bonjour François.
Bonjour Pascal, merci pour votre émission. Très bien. Oui, mon chouchou, oui, si vous voulez, oui. Moi, il me paraît le plus à même, effectivement, de nous faire échapper à ce duel Macron-Le Pen que apparemment pas grand monde ne veut, bah, sauf peut-être les partisans de ces deux-là. Et Bertrand me paraît effectivement le mieux placé et pour moi le plus apte à tenir la fonction présidentielle. Et surtout le plus apte à rassembler ce que ne peuvent faire ni Macron ni Le Pen. Parce que Macron et Le Pen, il faut savoir que dans un récent sondage, il y avait environ 60% des personnes sondées, interrogées, qui disaient ne pas juger que ces deux-là étaient des bons, de futurs bons présidents. Donc il y a quand même un... Moi je les déteste pas, j'ai pas du tout de détestation vis-à-vis de personne, mais il faut bien reconnaître que ces deux-là ne rassemblent pas. Contrairement à ce que pourrait faire un Xavier Bertrand qui...
Mais pour le moment, il rassemble moins quand même dans les sondages. Emmanuel Macron, il est au-dessus, il est largement au-dessus d'ailleurs.
Au-dessus dans les intentions de vote. Mais
oui.
Pour ce qui est de la capacité à être un bon président de la République, le dernier sondage de l'Obs, du 2 février dernier, donnait un très bon score pour être un bon président à Xavier Bertrand. Et avec une majorité, enfin, 33% des gens...
Et à gauche, vous imaginez personne, François ? À gauche, vous n'imaginez personne ? Par exemple, Anne Hidalgo, est-ce que Jean-Luc Mélenchon ?
À gauche, moi j'aime beaucoup Montebourg, mais Montebourg, il est isolé. Alors, Montebourg a parlé de De Gaulle collectif. Il a évoqué ce concept de De Gaulle collectif que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y en a marre des gens qui se prennent pour Jupiter, si vous voulez, et qu'il faut maintenant peut-être essayer d'y aller de façon plus collective, de façon plus impliquer les gens et plus écouter, plus consulter les experts, enfin tout ça quoi. Je veux dire, moi ça participe aussi de ce climat là, si vous voulez, ma façon de penser.
Bah merci de votre témoignage là encore, Marie-Agnès et François. C'est un thème de toute façon qui va nous intéresser. L'année prochaine, durant cette période, nous serons en pleine campagne électorale, si tout va bien, parce que si on est encore sous Covid, je ne sais pas comment se déroulera cette élection présidentielle. On va parler à présent, après la publicité, de ce rapport toujours particulier entre un chien et son maître. Et vous avez peut-être vu la vidéo qu'a posté Julien Courbet, qui a perdu sa chienne Vega, et ça fait beaucoup réagir les auditeurs aujourd'hui. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Sur Twitter, Julia Courbet a annoncé la disparition de sa chienne Vega, qui était un labrador. Un labrador, ça vit entre 10 et 12 ans. Et sa chienne avait 16 ans. C'est très très rare, un labrador qui vit jusqu'à 16 ans. Et il a posté ce message très émouvant. Vega, je ne pensais pas que je pourrais aimer un chien à ce point et qu'un chien pourrait m'aimer autant. Nous sommes avec Tiffany, bonjour. Tiffany, qui était de soignante et qui a 3 chiens. Est-ce qu'elle est avec nous, Tiffany? Tiffany, une fois? Bon, bah écoutez, on va écouter Hélène Marie, peut-être. Bonjour Hélène Marie.
Bonjour Pascal Pro.
Et merci d'être avec nous.
Je vous en prie. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Parce que j'en suis à mon 3e labrador. Et le premier chien que j'ai recueilli attaché à un arbre dans les Landes était en montagne des Pyrénées au mois de juillet. Et ce chien, je l'ai porté à l'ESPA à Bordeaux parce que je ne pouvais pas le garder. Et en fait, il allait le piquer. À cette époque-là, j'avais une Tobianchi. J'ai acheté une galerie et je suis revenue avec ce chien. Et ce chien a vraiment aidé mon fils à grandir. C'était le premier compagnon de sa vie. Après, j'ai eu des labradors. J'en suis à mon 3e. J'ai rencontré quelqu'un qui avait un enfant handicapé. Et ce labrador était tout le temps à côté de Julien, qui était dans un fauteuil roulant, qui ne parlait pas. Mais c'était sa seule communication avec nous. C'était le labrador. Voilà.
Bah écoutez, Hélène Marie, je pense que chacun comprend votre émotion. Et aujourd'hui, ce chien, il est...
Eh bien, écoutez, il va avoir 12 ans.
Ah, ce qui est très vieux pour un chien.
Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à juste titre.
Les labradors, c'est... Il est fatigué ?
Il n'est pas trop mal. Il est sous traitement, mais il n'est pas trop mal. Mais c'est un chien... vous voyez, là, je suis en train de pleurer un peu. Il est à côté de moi. Enfin, c'est extraordinaire. Les chiens, c'est extraordinaire. Les chats aussi, je suppose. Mais
c'est pas le même rapport, curieusement. C'est pas le même rapport. C'est-à-dire, si tu veux de l'affection et si tu veux de la fidélité, prends un chien.
Ouais, c'est vrai.
Voilà.
Donc, et c'est vrai que tous les chiens ont été extrêmement près de mon fils, Laurent. Et puis après, il y a eu cet enfant handicapé qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et c'était le seul lien entre son père et le chien. Quoi. C'est vraiment lui qui était avec Julien.
Il s'appelle comment votre chien, votre labrador?
Ego.
Ego, E-G-O?
Oui. EGO, oui, Ego.
Et là, il est à vos pieds, il est couché?
Oui, il est à côté de moi.
C'est dommage qu'on ne puisse pas le voir.
Je vais vous envoyer une photo.
Bon.
Tout à l'heure, il a boyé, mais c'est mignon comme tout.
Qu'est-ce qui fait du bruit là à côté? C'est vous?
C'est sa queue.
Ego.
Parce que je l'appelle, il dit bonjour. Voilà.
Bon, écoutez, vous lui dites bonjour.
Oui.
Vous lui dites bonjour, Hélène Marie, mais c'est vrai qu'on comprend. C'est toujours pareil, les gens qui n'ont pas eu de chien, parfois ils ont du mal à comprendre cette affection qui existe et ce lien si particulier entre une personne et son chien. Et vous en parlez avec beaucoup d'émotion, forcément.
C'est vrai. Et je voulais vous donner juste, parce que je ne veux pas prendre toute la parole, une anecdote. J'ai la première chienne labrador s'appelait Tanis. Et j'étais donc au Ferret. Et on se promenait à cette époque-là. Il n'y avait personne, hein, c'était pas la plage à la mode. Et en se promenant, la chienne a commencé à gratter dans le sable, etc. Et on a trouvé, enfin elle a trouvé, on a appelé la police, etc., un avion de la dernière guerre mondiale qui était complètement enfoui dans le sable.
Au Ferret ?
Oui, et je vous ai envoyé la photo. Ben, c'était 40 ans.
Ah, ça c'est incroyable ça.
Ouais. Et je vais vous envoyer la photo et cet avion est exposé au Bourget. Il y a longtemps, au Bourget, au moment de l'exposition d'aviation. Voilà.
Ben merci Hélène-Marie. Tiffany est là. Bonjour Tiffany, nous avons retrouvé Tiffany qui a 3 chiens.
Bonjour Pascal.
Bonjour, qu'est-ce que vous avez comme chien Tiffany?
Alors ce ne sont que des adoptions, donc ce sont des croisés. J'ai un croisé bosseron, un petit papy en panier retraite croisé ratier, un croisé labrador aussi. Et voilà, et c'est juste formidable. Moi, je me suis lancée dans les adoptions il y a quelques années. J'ai eu un Rottweiler pendant 15 ans. Et le jour où il est décédé, j'ai été anéantie et je me suis lancée corps et âme en fait dans la protection animale. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas un animal, tant qu'on n'a pas un chien dans sa vie, on ne sait pas ce que c'est que l'amour inconditionnel et aussi pur qu'un chien peut nous apporter. Moi, en étant soignante, quand je rentre chez moi, mes chiens, c'est ma bouée de sauvetage.
Voilà. Mais vous vivez dans un appartement ou dans une maison ?
Dans une maison.
Ouais, parce qu'il faut un peu d'espace quand même quand on a trois chiens. Restez avec nous en tout cas parce qu'on va marquer une nouvelle pause. Hortense Crépin va nous rappeler les principales nouvelles du jour à 14h et on continuera évidemment avec ce message qui nous a ému de Julien Courbet sur Twitter qui a annoncé la disparition de sa chienne Vega. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Il est 14h. Tiffany sera de retour avec nous dans une seconde pour parler de son amour pour les chiens. Hortense Crépin, le rappel des titres.
8 policiers de la brigade territoriale de contact de Pantin en Seine-Saint-Denis placés en garde à vue pour violence et détention de stupéfiants. Ils sont soupçonnés de violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, faux en écriture publique, arrestation arbitraire et détention de stupéfiants. Le projet de loi climat a été examiné ce matin au Conseil des ministres. Il reprend près d'un tiers des propositions de la Convention citoyenne et doit être débattu en mars à l'Assemblée. Un texte de 65 articles contesté par l'opposition. Elle accuse le gouvernement de détricoter les 149 propositions initialement formulées. 10 départements du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté, toujours en vigilance orange, neige, verglas cet après-midi. Prudence donc si vous êtes sur les routes. En Bretagne, les poids lourds peuvent de nouveau circuler depuis 13 heures sur le réseau national. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Emmanuel Mouret en tête des nominations au César avec 13 sélections, notamment la meilleure actrice pour Camélia Jordana et le meilleur acteur pour Nils Schneider. Le film est talonné par Adieu les cons et ET85 avec 12 nominations. La cérémonie doit se tenir le 12 mars. Ce sera pour la première fois à l'Olympia. En football, les 32e de finale de Coupe de France continuent. Dans trois quarts d'heure, coup d'envoi de Grenoble-Monaco, Auxerre, Marseille, Strasbourg-Montpellier, Nantes, Lens et Bordeaux-Toulouse. À 21h, ce sera la rencontre entre Caen et le Paris Saint-Germain. La météo cet après-midi après la neige, du soleil sur la moitié nord et des pluies cet après-midi du Rhône-Alpes à la Provence et la Corse. Les températures, moins 5 à Strasbourg, moins 2 à Lille, moins 1 à Paris, 11 à Bordeaux et 14 à Marseille. Les courses cet après-midi, c'était à Vincennes. L'arrivée provisoire, le 8, le 2, le 3, le 5, le 6, hélas. 14h02 sur RTL et vous retrouvez les auditeurs ont la parole avec Pascal Pro.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Merci Hortense. Tiffany nous parlait de son amour pour les chiens. Lorsque vous avez eu un Rottweiler pendant 15 ans, on dit parfois que c'est un chien dangereux. Vous n'avez eu aucun souci ?
Je n'ai jamais eu aucun problème. Le chien est le reflet du maître. Hein. Mmh. Si on s'en occupe bien, si on leur donne de l'amour, qu'on leur donne une éducation pas du tout dans l'agressivité.
Non, mais même avec des enfants, parfois, je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas, Tiffany.
Non, mais j'avais plein, mes neveux, mes nièces, des enfants autour. Il n'y a jamais eu le moindre problème. Ce n'est pas le problème de la race de l'animal, en fait. C'est ce que les maîtres en font, en fait, de cet animal, qui peut être dangereux. Non, j'ai pas eu de
bon, donc autre. Vous avez trois chiens aujourd'hui. C'est une organisation quand même, j'imagine. Vous les laissez vous bosser, vous êtes aide-soignante, donc vous les laissez tout seuls toute la journée. C'est quand vous revenez, il n'y a pas de soucis, ils n'ont pas tout cassé, ils n'ont pas tout...
Ah non.
Ils sont bien élevés.
J'ai mon compagnon qui est présent. Si on doit partir quelque part en vacances, effectivement, j'admets que ma vie quand même tourne autour.
Ah bah oui, il y a trois chiens, vous partez pas en vacances comme ça. Hein. C'est
non,
pas simple.
On fait un choix. J'ai fait le choix de prendre des animaux. Mmh. J'ai fait le choix de les assumer et de m'en occuper le mieux possible.
Bah écoutez, bravo, en tout cas, bravo d'ailleurs, c'est votre vie et c'est bien qu'elle soit en adéquation avec ce que vous pensez. Merci Tiffany. Laurent est là, bonjour.
Bonjour Pascal, bravo, merci de me donner la parole. Votre mission tout d'abord est toujours très pertinente.
Et ben c'est gentil, merci beaucoup. Vous avez une chienne husky, donc c'est très beau ces chiens.
Oui, tout à fait. Donc, c'est pas parce que c'est la mienne, mais elle est magnifique. Elle a des
husky de Sibérie.
Exactement. C'est un husky de Sibérie. C'est une chienne husky de Sibérie. Mmh. et qui lui donne vraiment tout l'amour qu'elle peut avoir, et on lui rend bien, quoi, en fait. Hein. Donc c'est vraiment, je voulais rebondir un petit peu sur Julien, quoi. Je lui témoigne d'abord mon soutien à Julien, parce que bon, il doit être anéanti effectivement par la perte de sa chienne. Moi, j'en ai perdu une donc en 2014. C'était un Labrador croisé husky, qu'on adorait aussi, et qui est malheureusement parti en 2014. On a un petit peu tardé. Moi, je dois dire qu'avec la peine qu'on a eue, j'avais pas trop envie d'en reprendre un tout de suite. Et puis c'est mon épouse qui a craqué avant moi. Voilà.
Et cette chienne husky, elle a quel âge?
Elle a 6 ans, elle vient d'avoir 6 ans.
Donc
voilà, on l'emmène partout. Bon, moi je suis beaucoup sportif, donc parce que bon, quand on a un chien de cette race-là, faut savoir qu'il faut l'emmener courir. Elle a besoin de se dépenser en permanence, quoi. Bon, par exemple, c'est la semaine passée, j'ai fait 45 kilomètres avec. Elle a fait 45 kilomètres de course à pied, quoi. Voilà. Elle est habituée depuis à peu près 8-10 mois à courir. Et bon, c'est un régal, quoi.
Donc, faut plutôt être en maison. Vous avez une maison dans le Val d'Oise?
Oui, j'ai une maison dans le Val d'Oise, effectivement.
C'est mais plus facile si que si on est dans un appartement parisien, j'imagine. Déjà, vous êtes en banlieue, vous êtes en dehors de Paris. Est-ce que si vous avez un husky à Paris, j'imagine, c'est pas très facile. Il faut mieux un chihuahua à Paris ou un King Charles. Moi, j'aime bien le cavalier King Charles.
Oui, tout à fait.
C'est un petit chien, c'est mignon, ouais. Comme tout, ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des cavaliers King Charles, c'est mignon.
Oui, c'est sûr. Mais bon, l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien, si on est sportif, être en appartement avec un husky.
Oui.
Je vais souvent au Savoie. On va dans un petit appartement. Et tous les matins, entre 5 et 10 kilomètres de course à pied, quoi.
Ouais.
Et puis voilà, le chien est heureux. Le soir, pareil. Quand on va au ski, c'est footing avant le ski et puis footing après le ski.
Bon, merci beaucoup, Laurent. Là encore, il y a du témoignage. Vous avez vu comment les gens parlent de leur animal. On sent dans la couleur, dans le grain de leur voix, le plaisir qu'ils ont. Vous avez eu des animaux, Greg?
J'ai eu un chat il y a bien longtemps. Et en effet, j'avais été triste après son décès. Mais depuis, je n'ai pas d'animal. Et notamment parce que en vivant dans un petit appart parisien, c'est pas évident d'avoir un animal de compagnie au quotidien, je trouve.
14h07, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christian Olivier est dans le studio. Je ne sais pas pourquoi Christian Olivier veut rentrer dans ce studio. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Olivier? Il veut parler d'un chien. Il a peut-être un chien, Christian Olivier, je ne sais pas. Notre ami spécialiste de sport, Christian Olivier.
Il est en régie avec moi. Je crois que Christian Olivier aime bien les auditeurs ont la parole.
Ah,
voilà tout.
C'est pour ça.
C'est un passage amical.
D'accord. Eh bien, écoutez, je le salue. Et nous pourrons... Ensuite, pourquoi pas continuer cette discussion, mais pour le moment, nous sommes avec Manu. Bonjour Manu, qui habite dans les Vosges.
Bonjour.
Alors, je lis votre fiche, vous avez eu une cinquantaine de chiens.
Oui, alors, comme
incroyable.
Le monsieur qui a appelé tout à l'heure, j'ai débuté avec un husky. Donc, la chose est que j'ai eu un accident à l'âge de 16 ans, un accident de cheval. J'ai eu de gros soucis dans le dos, j'ai été opérée depuis, et on m'avait dit que je ne ferais plus jamais de sport.
Ça, c'était à quel âge ?
16 ans, à 16 ans, et je devais être animatrice sportive à l'époque. Donc, à 21 ans, on m'a offert un husky, et à partir de là, j'ai commencé à me renseigner sur ce que c'était que ce chien, parce que je ne connaissais pas. Et ma vie a totalement changé. Et donc, j'ai eu plusieurs chiens. Je suis partie à la montagne. J'ai été championne en attelage 8 chiens. Et donc, j'ai fait du sport. J'étais vice-championne de France à l'époque. Et donc, pour faire de l'attelage 8 chiens, c'est vrai qu'on en a...
Ouais, là, donc c'est un peu particulier, parce que ces chiens, vous ne les aviez pas en permanence chez vous, ces 8 chiens, par exemple.
Ah si.
En permanence, quand vous...
Ah si, j'ai édité jusqu'à une vingtaine de chiens chez moi, oui, mais avec obligatoirement un grand terrain.
Mais comment vous faisiez pour vous en occuper?
C'est assez simple. À partir du moment où on a un bon chien, les autres suivent assez facilement. L'éducation se fait facilement. Pour les s'en occuper, c'est ce qui était le plus fatigant pour moi. C'est-à-dire que j'ai un peu abusé de mes forces. Et à une trentaine d'années, j'ai été opérée de nouveau. Et là, j'ai été paralysée pendant 6 mois. Donc, le plus vieux de mes huskies, le premier qu'on m'a offert, a vécu 17 ans. Et j'ai changé de race petit à petit. J'ai eu moins de chiens. Et aujourd'hui, je fais encore du cani VTT en handisport.
Bon, et aujourd'hui, vous avez combien de chiens ?
7.
7 ? Mais c'est une organisation. D'abord, il y a un coût quand même financier. Parce que quel est le coût mensuel de...
C'est mon travail. Je travaille autour du chien, en fait. Ma vie a totalement changé par rapport à ça.
Non, mais c'est votre travail. Quand vous dites que ce n'est pas un travail qui est rémunéré, c'est...
Plus ou moins. C'est-à-dire que du fait de faire de l'attelage et puis du cani VTT, etc., aujourd'hui, j'ai une boutique.
C'est quoi le cani VTT ?
C'est du VTT avec un chien devant. Attelé, avec un bon harnais, évidemment, du matériel de sécurité. Et ce sont des courses de plus en plus fréquentes en France. On a du canicross, c'est-à-dire qu'on court avec le chien. Et il y a la même chose en VTT et même en trottinette tout-terrain.
Écoutez, alors ça m'a échappé. Je ne sais pas si les auditeurs connaissaient ça, le cani VTT. Mais en revanche, donc le budget pour nourrir 7 chiens mensuels, vous l'avez
Justement,
calculé ?
Je vends des croquettes et je les ai faites faire avec mes analyses parce que j'ai travaillé pour de grandes marques. Et du coup, c'est vrai qu'elles me reviennent beaucoup moins chères pour de bonnes qualités, quoi.
Parce que vous les avez produites.
Et tout à fait.
Mais on peut dire le prix quand même mensuel de ce que ça pourrait coûter par chien, comme ça on multipliera. Plus le veto, par exemple, le veto, c'est une fortune, un veto pour un chien. Moi, je l'ai vu avec un cavalier King Charles. Vous faites faire une intervention, c'est tout de suite 250 euros, 300 euros. Non, mais c'est très cher.
Alors, je n'habite pas à Paris, ça revient un peu moins cher déjà. Et puis surtout, je fais beaucoup appel aux ostéopathes. Donc, mes chiens sont plus sur des soins.
Un ostéopathe pour chien?
Oui, tout à fait. Ce qui permet en fait d'avoir beaucoup moins de traitements et de prévenir les problèmes.
Bon bah écoutez, merci Manu, merci vraiment beaucoup et je témoigne.
Voilà. C'est vrai que je voulais juste préciser que pour moi c'était vraiment un soin en même temps parce que je serais en fauteuil roulant aujourd'hui sans eux.
Écoutez, là encore, nous parlons, et je le dis pour les auditeurs qui arrivent à l'instant, Julien Courbet sur Twitter a annoncé la disparition de sa chienne Vega, et c'est vrai que ça a ému beaucoup les auditeurs qui appellent pour rapporter l'amour qu'ils ont pour leur chien. Nathalie, c'est son cas également, qui habite en Charente. Bonjour Nathalie, vous avez perdu votre chien il y a 2 ans.
Oui, bonjour Pascal, merci d'avoir sélectionné mon témoignage. Moi j'avais un Terre-Neuve. Il y a encore des trémolos dans la voix, je suis désolée. Hein. Moi, j'avais un Terre-Neuve, j'ai vécu avec lui pendant 8 ans. Je l'ai eu bébé. Hein. Et puis, il est mort. J'ai fait la fin de vie de mon chien, en fait. Je l'ai accompagné jusqu'à son dernier souffle chez moi. J'étais toute seule avec lui. Et ça a commencé à 4h30 du matin. Et il est décédé à 6h du matin. Voilà. Et donc, je voulais dire combien je pense à Julien aujourd'hui. Et je sais quelle douleur il ressent. Et je suis de tout cœur avec lui parce que moi, ça fait 2 ans, le 5 novembre 2020. Bon, la douleur est toujours là. Hein, le deuil n'est pas fait et c'est très, très, très compliqué. Quoi, voilà.
Alors c'est un gros chien de Terre-Neuve, hein, c'est un chien lourd, voilà, qui fait 70 kilos, c'est un chien noir avec des poils, je ne sais pas si tout le monde connaît le Terre-Neuve.
C'est des chiens, guider un peu les gens, c'est les chiens qui font beaucoup de sauvetage en mer, voilà. C'est des grosses boules de poils pleines d'amour, c'est 60 kilos d'amour et c'est merveilleux de partager. Moi c'était mon rêve de petite fille, j'en avais vu un, je devais avoir 8 ans et c'était mon rêve de petite fille, et d'avoir partagé la vie avec Nours pendant 8 ans, je me dis, c'est un chien à pas mettre chez tout le monde, en fait, parce que c'est tellement plein d'amour que c'est super chouette. Mais quand ils partent, c'est terrible, quoi.
Mais vous avez hésité à reprendre un chien, même si j'aime pas beaucoup cette expression, moi, reprendre un chien.
Reprendre, ouais, moi non plus.
J'aime pas cette expression. Mais est-ce que vous avez hésité à faire entrer de nouveau un chien chez vous?
Alors non, Pascal, parce que j'ai encore ce moment terrible de ces 2 heures que j'ai passées avec lui où il était en convulsion, il moussait, c'est-à-dire qu'il bavait blanc. Enfin bon, c'était horrible. Et il était 4h30 du matin. J'ai pas réussi à avoir, c'est-à-dire que je suis pas tombée sur la bonne personne au bon moment. J'ai pas pu faire euthanasier mon chien pour qu'il ne souffre pas, quoi. Et donc j'étais avec lui et ça a été assez. J'étais toute seule avec lui. Ça a été assez terrible. Et je me suis dit que non, c'est j'ai 56 ans aujourd'hui, je me dis que revivre ça, c'est non, c'est pas possible. Je pourrais pas. Alors j'hésite parce que régulièrement je vais sur internet, je sais qu'il y a des élevages de Terre-Neuve qui
vous reprendriez à ce moment-là à Terre-Neuve, peut-être à ce moment-là prendre un autre chien.
Je sais pas, parce que le Terre-Neuve, c'est tellement magnifique, c'est magique, quoi. C'est
le Golden Retriever, c'est magnifique. Le Labrador, c'est magnifique.
Ouais, mais bon, un jour ou l'autre, ils partent aussi, hein, ceux-là, oui, Pascal. Hein, c'est toujours le même problème, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Voilà. Bon, mais vraiment, c'est voilà, je suis de tout cœur avec Julien et je lui souhaite beaucoup de courage.
Merci beaucoup Nathalie. Il nous reste encore quelques minutes et nous parlerons peut-être de cuisine. Est-ce que vous cuisinez mieux? On prendra peut-être un, voire deux auditeurs et on conclura l'émission. Après, ce sera le débrief parce que chacun attend désormais le débrief. C'est ça qu'on attend. C'est le moment le plus important. On se dit qu'est-ce qu'il va garder? Qu'est-ce qu'il va jeter? De quoi va-t-il nous parler, l'ami
C'est le moment où vous mettez les pieds sous la table.
Et puisque Cyprien Sini nous écoute, il m'envoie ce petit tweet. Il dit fascinant ce que j'entends avec le cani VTT. C'est vrai que je ne connaissais pas le cani VTT. Je ne vous lirai pas le petit SMS qu'il m'a envoyé ensuite parce que ce n'est pas convenable. Il dit on cuisine du chien, c'est pas possible.
Ah non.
Ça c'est inadmissible, vous voyez. Il n'a pas de cœur, ce cini.
Vous êtes mal entouré, hein.
Ah, vous, effectivement, vous êtes sexiste et machiste et lui est animalophobe. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes avec Laurent. Êtes-vous passionné de cuisine? Passez-vous plus de temps au fourneau? Dites-nous quel est votre plat le plus réussi. Laurent, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour. Oui, je passe pas mal de temps en cuisine, pas au fourneau, mais le midi, au soir et les week-ends. Et c'est monté en gamme, entre guillemets, hein. Je suis juste un amateur, hein. Je ne suis pas un professionnel. J'ai profité du confinement et avec des émissions comme Cyril Dignac qui est passé sur la 6, qui a amené pas mal de petites techniques, de petites recettes à pouvoir faire, qui pour moi, j'ai pas trouvé ça trop compliqué à faire et c'était super sympa à suivre. Et parce que je me suis mis à la cuisine par obligation entre guillemets, mais c'était une obligation pour la bonne cause. C'est mon épouse était tombée enceinte il y a quelques années en arrière, ça fait une trentaine d'années, et a été obligée de rester allongée pendant 7 mois, ne rien faire par rapport à sa grossesse. Donc il fallait faire quelque chose et faire à manger. Et donc du coup j'ai commencé à faire les courses, à faire à manger, et depuis c'est resté. Et surtout, je fais les courses automatiquement pour faire manger, pour faire les courses, et puis trouver des idées.
Alors, le plat, par exemple, que vous allez faire ce soir?
Alors, ce soir, je vais faire des polpettes.
Des polpettes?
Des polpettes avec des.
C'est quoi des. Attendez, je ne sais pas ce que c'est.
Des petites boulettes de viande.
Des polpettes, c'est des boulettes de viande?
Ouais, vous connaissez pas les polpettes,
non.
Ça en dit long sur votre implication dans la cuisine, hein.
Ah non, mais alors là, mais je suis nul hein, là-dessus. Non, je vous jure. Et en plus, moi, je suis franco, je raconte pas de salade. Si je connais pas, je connais pas. Je ne connais pas des polpettes.
Moi, je sais que j'ai entendu que vous allez faire un chien par moitié ce soir, c'est ça?
Le faire, non, mais mon nom. Mais Laurent, si vous saviez, moi, chien par moitié, il est décongelé. Je suis nul, je sais rien faire, moi. Je vous entends pas très bien, en revanche, c'est ça qui est dommage.
Je viendrai vous en faire un, vous verrez la différence.
Bon, donc polpette ce soir. Et quel est le plat que vous réussissez le mieux?
Ah bah écoutez, tout ce que je suis en général, je ne me plante pas, mais par contre, il y a des choses que je ne fais pas. Je suis pas dans les gros gâteaux, etc. Je fais de la pâtisserie basique. Je fais des Saint-Jacques, je fais des bâtisseries parmentiers, du foie gras, des Saint-Jacques, du poisson. Mais j'ai beaucoup d'astuces de cuisine par Cyril Dignac et également Simone Zanoni, que je suis régulièrement.
Laurent, je vous coupe, on n'entend pas très bien, la ligne n'est pas très bonne. Donc Marie-Françoise, ça sera notre dernière auditrice. Marie-Françoise, bonjour.
Oui, bonjour.
Passionnée de cuisine, qu'est-ce que vous allez faire ce soir?
ce soir, les polpettes, parenthèse, ce sont des boulettes à la sicilienne.
Je ne sais pas.
Ce soir, je ne fais rien parce que je n'ai pas mes enfants, donc ce sera une soupe faite maison, bien sûr. Mmh. Non, mais par contre, dès que je reçois, je cuisine à peu près tout. On me dit, tu nous prépares ça, je prépare.
Et par exemple, qu'est-ce que vous réussissez bien?
Réussir, je ne sais pas, mais c'est toujours apprécié d'avoir un mouton ou des aignolis ou un goulash ou un poulet à l'indienne.
Un goulash?
Oui.
C'est un plat polonais ou russe?
Mais je ne suis pas du tout de l'Est. Hein. Mm-hmm.
Le barbeur blanc, est-ce que vous faites le barbeur blanc?
Non.
Non.
Ah non, mais je ne suis pas spécialisée dans.
Vous ne faites pas de poisson?
Ah si, du poisson, j'en fais beaucoup. Des encornets farcis. Si je fais mes fruits de mer, c'est moi qui les cuis, par exemple. Oui, des choses comme ça.
Bon, écoutez, c'est intéressant, Marie-Françoise. Donc, la prochaine réception, c'est quand?
Alors, la prochaine réception, c'est samedi. Et je ferai une paella, parce que c'est toujours des tablées assez conséquentes.
Ah, parce que vous serez combien samedi?
Six. Respecte le...
Bien sûr. Bon.
Les nécessités.
Donc, qu'est-ce que vous mettez dans votre paella?
Alors, je fais revenir mon poulet. Enfin, je mets du poulet, je mets des calmars ou des scipions si j'en trouve, des moules, des crevettes, quelques petits pois, quelques lamelles de poivron. En gros, c'est, du riz, bien sûr, faut pas oublier.
Combien de temps pour préparer ça?
Peut-être une heure.
Bon, écoutez, rendez-vous mardi, rendez-vous samedi chez vous, Marie-Françoise. On viendra tous avec Laurent Tessier.
Vous mangerez dans le jardin parce que sinon nous serons.
Ah, nous, bien sûr, nous déjeunerons dans le jardin, geste barrière.
Comme d'habitude, je mettrai les pieds sous la table.
Greg Caradonis, ça va. Allez, le débrief. Merci, Marie-Françoise. Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
La fin de l'émission arrive, il va être temps, Pascal, de se mettre... Allez, plus vite que ça, Marie-Agnès nous a donné quelques idées pour ce midi.
Dimanche dernier, j'ai fait des aiguillettes de canard à l'orange à mes enfants.
Ah, vous n'avez pas envie d'en faire pour moi?
Si vous voulez, moi je veux bien.
Petit profiteur, c'est Pascal Praud. Et depuis hier, on a compris, Pascal, que vous adorez titiller notre réalisateur Greg Caranoni. C'est l'heure de la question embarrassante.
Vous faites la cuisine, Grégory?
Bien sûr.
Oh, j'espère que l'ami Greg avait vraiment bien préparé sa réponse. Attention, polémique peut-être en vue.
Alors, vous avez fait quoi hier soir, par exemple?
Alors, je rentre un peu trop tard pour cuisiner le soir.
Aïe, 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 polémique, notre réalisateur est sûr de lui, confiant. Mais attention à la relance, la réaction de Pascal.
Vous êtes vraiment gonflé, vous êtes vraiment... Je pensais que vous étiez un homme moderne, mais quel match. Vous rendez compte de votre réponse. J'attire les féministes à ce que vous venez de dire à l'instant. Quand je rentre un peu tard, je peux pas faire la cuisine.
Non,
et
du
votre
tout.
Femme.
Vous ne l'avez pas laissé finir.
Ah oui, rien que ça. Allez, après la punchline d'hier, c'est une seconde victoire pour Pascal Praud aujourd'hui. Et c'est vrai que l'émission était assez exceptionnelle, était différente d'habitude.
Nous sommes avec Charles. François est là également. Nous n'avons que des noms de rois pour le moment. Charles, François.
Émission royale aujourd'hui. Quelque chose à dire, Pascal, sur Greg?
Greg, c'est pas un prénom de roi, de pape.
De gueule.
Et oui, vous avez été nombreux aussi à nous appeler pour réagir au message émouvant de Julien Courbet sur Twitter qui a perdu sa chienne Vega, 16 ans. Tiffany a été la première à réagir.
Tant qu'on n'a pas un animal, tant qu'on n'a pas un chien dans sa vie, on ne sait pas ce que c'est que l'amour inconditionnel et aussi pur qu'un chien peut nous apporter. Quand je rentre chez moi, mes chiens, c'est ma bouée de sauvetage.
Et surtout, mesdames et messieurs, il s'est passé quelque chose de très...
Je crois que Christian Olivier aime bien les auditeurs ont la parole, voilà tout.
C'est pour ça.
C'est un passage amical.
Le chef du service des sports, Christian Olivier, nous écoute, mesdames, messieurs. Allez, débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui va nous réchauffer avec cette vague de froid.
En fait, Christian Olivier, il passait pour savoir si Raymond Domenech est toujours l'entraîneur du FC Nantes. Et je n'ai pas cette information, Philippe Audouin, qui est le correspondant permanent d'RTL à Nantes, me dit qu'il serait sur le départ. Donc je veux bien prendre cette information selon Philippe Audouin. Mais pour le reste, je ne peux rien vous dire d'officiel.
C'est sympa avec cette musique quand vous parlez de
c'est ce que j'allais dire.
Qu'est-ce que nous avons? On a
un
Flavie.
Petit peu de publicité comme chaque
Allez,
jour et ensuite ce sera Flavie. Flavie.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RT.